Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai eu la chance, je crois, d'apercevoir un monde qui a désormais quasiment disparu. Et avec lui, des croyances, des usages, des rituels. Cet univers presque oublié, c'était celui de mes ancêtres, de mes grands-parents qui toutes et tous sont nés et ont vécu en Bretagne, dans le Finistère Nord précisément. Un coin où la notion de coutume a longtemps été tout sauf anodine, jusqu'à ce que le folklore remplace la culture, mais c'est un autre débat. Toujours est-il que, même moi qui suis né dans les années 80, j'ai pu entrevoir ces coutumes concernant un domaine très spécifique, celui de la mort. Lorsque mes grands-parents paternels sont décédés, il y a une vingtaine d'années, ils ont été veillés par tous leurs voisins, tous leurs amis, qui se relayaient, chantaient, priaient, en breton, en français. La mort dans la culture de mes aïeux, elle faisait totalement partie de la vie. En quelques décennies, ces habitudes, elles ont presque disparu. Ce n'est que tardivement, comme on l'a vu avec la crise sanitaire actuelle, que de nouveaux usages numériques finissent par émerger. Avant cette pandémie, la journaliste Lucie Ronfaux avait enquêté pour Programme B avec cette question. La mort et le deuil ont-ils vraiment leur place dans nos univers ultra connectés ? Elle en a tiré une série documentaire, Mort à la ligne, réalisée par Quentin Bresson, une série que nous vous proposons en partenariat avec nos amis de la revue Nichons-nous dans l'Internet. Le prochain numéro comportera un article de Lucie, illustré par le talentueux Bathroom Quest. D'ailleurs, petit cadeau bonus au passage, les 10 premiers d'entre vous à nous adresser un mail avec leur adresse à programmeb@binge.audio gagneront un exemplaire de cette revue de haute qualité à lire après, évidemment, avoir écouté les 4 épisodes de notre série, dont le premier arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B.
Je m'appelle Lucie Ronfaux, j'ai 28 ans et je suis journaliste. Ça, ce sont des informations que je dis facilement. Mais il y a une autre chose à savoir sur moi. Quelque chose que jusqu'ici, je n'avais jamais dit publiquement. Il y a quelques années, ma mère est morte. Quand on perd quelqu'un, les gens ont souvent beaucoup de conseils. On m'a préparé à gérer l'enterrement, le notaire, la tristesse, la colère. Par contre, on a oublié de me parler d'un truc. Personne ne m'a prévenu qu'Internet était peuplé de fantômes. J'ai compris assez vite que le numérique allait compliquer mon deuil. Ça a commencé par Facebook. De temps en temps, je recevais une notification. « Hé, ça fait longtemps que tu n'as pas écrit à ta mère, non ? Avant, tu lui parlais tout le temps. T'as pas envie de reprendre contact ?» Mon quotidien en ligne était plein d'embûches. En cherchant une recette de cuisine dans ma boîte mail, je tombais sur ses vieux messages. J'ai aussi dû supprimer « maman » de ma liste de contacts parce que son numéro de téléphone avait changé de propriétaire. Je l'ai mal vécu. Ma mère avait déjà disparu de ma vie. Elle a aussi disparu de mon smartphone.
Moi, je m'appelle Valentin, j'ai 39 ans. J'ai perdu ma fiancée dans un accident de la route. Et moi, j'ai très mal vécu les réseaux sociaux et tout ça. Notamment le Facebook qui te rappelle tous les ans, anniversaire, ton post qui a eu le plus de commentaires. Oui, merci Facebook, c'est pas forcément celui que j'aimerais te voir remonter ou autre sur... c'est vraiment con, hein, mais ta playlist que t'as confectionné en échangeant, en ajoutant chacun son tour une chanson ou autre pour s'envoyer des messages, celle-là du coup pareil, j'ai envie de la bannir, mais les algos continuent de me dire tu l'as écouté des centaines, des milliers de fois cette chanson, on te la remet, et à chaque fois tu sautes sur ton téléphone, non, pas celle-là, skip là, ou alors t'es parti pour 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois de déprime.
La situation de Valentin est typique des deuils modernes. Aujourd'hui, quand on meurt, on ne laisse pas seulement son corps, mais aussi plein de données en ligne. Un compte Facebook, une boîte mail, une chaîne YouTube, des tweets, des photos sur Instagram. Les algorithmes des réseaux sociaux, ces programmes qui ordonnent automatiquement les contenus de nos fils d'actualité, peuvent devenir cruels. Souvent, les proches sont désemparés devant ces traces numériques. D'après une étude de l'université d'Oxford, en 2070, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Il s'agit d'un enjeu moral, mais aussi économique. Héberger des données de personnes décédées coûte cher. Or, nos quotidiens sont de plus en plus connectés. Que se passera-t-il quand les gens nés avec le web vont mourir, eux aussi ? Petit à petit, les réseaux sociaux s'organisent. YouTube, Snapchat, LinkedIn permettent à la famille d'une personne décédée de demander la suppression de ses comptes. Facebook, lui, va un peu plus loin. Il est possible de demander à l'avance que son compte soit supprimé après son décès. On peut aussi nommer un légataire, une personne qui sera chargée de gérer notre compte après notre disparition. Dans ce cas, le compte devient une page de commémoration. Cette option permet aussi d'éviter que le compte ne se retrouve dans les outils automatiques de Facebook, comme les rappels d'anniversaire ou les publicités.
Avec le numérique, on crée vachement d'habitudes. Et donc, on est dans sa routine de « je me lève, ça y est, c'est, je vais faire un petit mail ou un petit SMS de bisous de bon matin. » Parce que, comme on n'habitait pas ensemble, on ne pouvait pas le faire en vrai. Donc toutes ces attentions qui étaient devenues comme ça, il a bien fallu trouver quelque chose pour le remplacer. Et c'est beaucoup plus difficile dans le numérique parce qu'on n'a pas l'excuse de « sinon, j'aurais juste déménagé, j'aurais changé mes routines physiques et j'aurais pas eu plus la tentation. Mais enlever l'existence d'un email, enlever l'existence de Facebook, c'est vachement compliqué, quoi.
Des options pour mieux gérer la mort en ligne existent, mais elles sont encore mal connues du grand public. Certaines entreprises cherchent donc à faciliter les choses. C'est par exemple le cas d'Advitam, une start-up française qui permet d'organiser des obsèques en ligne. L'entreprise aide aussi gratuitement ses clients à fermer les comptes sur les réseaux sociaux de leurs proches décédés.
Notre rôle, c'est vraiment de simplifier la vie des familles et donc de gérer le maximum de choses pour elles.
Philippe Méralbe est le PDG d'Advitam.
Parce que, heureusement d'ailleurs, on n'est pas confronté à un décès tous les 2 jours. Et donc, du coup, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. D'ailleurs, déjà, ce qui est possible de faire et comment ça fonctionne. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être facilitateur pour eux. Et donc, en fait, on va... clôturer les différents réseaux sociaux, si la famille le souhaite évidemment, en leur nom. Donc en fait, la famille nous dit par exemple, je voudrais clôturer le compte LinkedIn ou le compte Facebook de telle personne. On va contacter LinkedIn ou Facebook avec, en leur fournissant les preuves du décès, donc les actes administratifs. Et eux derrière, donc chaque réseau social va prendre les mesures adéquates pour clôturer les pages. Pour moi, c'est quelque chose qui reste très minoritaire et que seuls les plus technophiles d'entre nous connaissent, parce que les réseaux sociaux n'en font pas la publicité, ils n'ont aucun intérêt à communiquer là-dessus. Donc c'est très bien, ça va dans le bon sens de proposer le légataire, la clôture des comptes, etc. Mais à mon avis, c'est une infime minorité des gens qui savent que ça existe. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de le proposer, parce que nous, on le propose systématiquement aux familles qu'on accompagne. Donc déjà, rien que le fait de savoir que ça existe, ça permet de faire quelque chose, quoi. On propose cette option juste après l'organisation des obsèques. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se laisser un peu le temps d'y réfléchir. Enfin, c'est pas un sujet prioritaire, en fait, où il y a une urgence de devoir clôturer les comptes. Donc, il y en a beaucoup qui décident de ne rien faire juste après les obsèques. Et peut-être que dans les 6 mois ou dans l'année qui suit, une fois que pour elles le deuil est fait, là, elles peuvent prendre leur disposition, quoi.
En France, il existe un flou juridique sur la gestion des données en ligne après la mort. En 2016, les députés et les sénateurs ont adopté la loi pour une république numérique. Ce texte proposait justement de créer un droit de testament pour nos données en ligne. Mais depuis le vote, cette disposition attend toujours son décret d'application.
Alors en Europe, à ma connaissance, mais je peux me tromper, la France a été plutôt précurseur sur ce sujet.
La personne que vous entendez, c'est Axelle Lemaire. Elle était secrétaire d'État chargée du numérique au gouvernement entre 2014 et 2017. C'est elle qui a apporté la loi pour une république numérique. Son but était de moderniser la loi Informatique et Liberté, aussi appelée loi CNIL, un texte qui régit le traitement de nos données depuis 1978. Ce texte ne prévoyait pas la conservation des données après la mort. Il fallait donc trouver un moyen de faciliter leur gestion, que ce soit par un testament spécifique, on appelle ça des directives générales, ou directement par les familles des défunts.
En cas d'absence de directives express qui ont été consenties et exprimées, alors là, il y a un dispositif spécifique qui concerne notamment les héritiers qui peuvent, si c'est en lien avec la succession, accéder à, et demander aux plateformes numériques d'accéder aux données. Je vous donne un exemple très concret, les photos de famille. Elles sont de plus en plus postées dans le cloud. Ça veut dire que si on ne peut pas accéder au compte de la personne défunte, eh bien, on ne peut pas accéder à toutes les photographies et vidéos qui concernent la famille. Et donc, voilà, c'est un exemple de cas de figure très particulier. Alors après, est-ce que ce type de données, c'est lié à l'héritage et à la succession ou pas? Tout ça, ça reste un droit à interpréter, parce qu'aujourd'hui, il y a la loi, mais il manque son décret d'application. Et puis, il n'y a pas eu de décision de jurisprudence de la part des tribunaux qui permettent de préciser la portée de ce droit. Il y avait un second sujet qui était est-ce que tout doit être laissé aux prestataires numériques, aux professionnels qui fournissent les plateformes? Est-ce que c'est à eux de décider pour les utilisateurs? Ou est-ce qu'il n'y a pas un moment où la loi, et donc la loi souveraine, doit définir le cadre juridique? En l'occurrence, c'est la réponse qui a été apportée, qui a été de dire, ben non, c'est pas que aux conditions contractuelles des plateformes de décider de la vie et de la mort des données personnelles en ligne.
Bref, pas facile de s'y retrouver. En fait, très peu de gens réfléchissent à l'avenir de leurs données. Et pour leurs proches, la décision n'est pas forcément facile à prendre une fois le moment venu. Il peut être douloureux de faire disparaître toutes les traces d'une personne aimée en ligne. Ou au contraire, on peut ressentir le besoin de ne plus jamais les voir. Ou alors, on espère trouver une voie intermédiaire qui n'existe pas vraiment.
Ça a été super difficile. Au début, j'ai voulu... Moi, je me suis déconnecté complètement pendant plusieurs mois, mais je travaille dans le numérique, donc c'était pas évident de rester déconnecté. Ma copine et moi, ma fiancée et moi, on n'habitait pas la même ville. Elle habitait à Grenoble, moi à Paris. On allait emménager ensemble quelques mois plus tard. Et donc, du coup, on communiquait énormément par mail, SMS, Messenger et toutes les autres systèmes de messagerie. Et donc, j'ai un historique de plusieurs dizaines de milliers d'emails. Et donc, que ce soit quand on recherche un mail avec un mot-clé qui match et qu'on revoit son truc, c'est impossible de les effacer, parce que quand on les efface, c'est fini. Quand on a quelque chose de physique, des lettres, tous les courriers qu'on s'envoyait, parce que on s'envoyait aussi pas mal de courriers, parce qu'on aime bien le réel, eux, je les ai mis dans une petite boîte, qui est dans une autre boîte, qui est dans une autre boîte, qui est dans la cave de chez mon père. Donc, ça existe, c'est pas trop proche, je suis pas trop tenté. Là, c'est sur ma boîte mail. À n'importe quel moment, je peux le revoir, mais jamais je... Enfin, je pense que jamais je l'effacerai. J'ai gardé un téléphone sur lequel j'avais des SMS qui n'étaient pas transférables parce que c'était un vieux téléphone d'une ancienne époque. Voilà, il existe encore. J'ai gardé le chargeur juste pour lui parce que on ne sait jamais. Et donc, cette partie-là est très, très difficile.
Sur Internet, on n'échappe pas aux fantômes des disparus. Mais parfois, il est encore plus difficile de se protéger des vivants. On a parlé de la façon de se préserver des traces numériques de nos proches après leur mort. Mais pour de nombreuses personnes, le web, c'est aussi un moyen de parler des disparus, de partager leur tristesse, leurs souvenirs. Y a-t-il une bonne manière de parler de la mort sur les réseaux sociaux? Et le deuil, cette expérience si intime, a-t-il vraiment sa place sur le web? On parlera de tout ça au prochain épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.